briser son leadership spirituel. Et si le management n'était plus seulement synonyme d'efficacité et de rendement ? Et si le modèle qui épuise autant les hommes que la planète touchait à sa fin ? Et si quelque chose d'autre était en train d'éclore ? Un leadership qui redonne au spirituel sa juste place en entreprise. La société a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants et managers audacieux qui osent réformer le système. Des leaders engagés et éclairés. Cette série de podcasts vous est proposée par Karine Mast, fondatrice de Brand Alphabet.
Dans ce cinquième épisode, d'oser son leadership spirituel, j'ai souhaité donner la parole à une manageuse qui met l'accent sur les émotions et le corps. Leslie Prieur est directrice adjointe d'unité opérationnelle chez Orange. En plus de son management d'équipe, elle prépare ses diplômes de professeur de yoga. Le mot spiritualité peut faire peur en entreprise. On a tendance à le confondre avec religiosité. Pouvez-vous nous préciser à vos yeux les principales différences ?
Moi, je dirais que la spiritualité relève plus du cheminement individuel de chacun. Donc, c'est quelque chose de très personnel. Et c'est une démarche dans laquelle on est face à nos propres questionnements de soi à soi, de soi à l'autre ou de soi. Et c'est là qu'intervient la spiritualité, le lien de soi à quelque chose de plus grand. Et je trouve que quand on partage autour de la spiritualité, on partage surtout des expériences, on partage des vécus, mais pas de croyances ou de dogmes communs. Et c'est là pour moi qu'il y a une vraie différence entre spiritualité et religion. Les religions, elles peuvent offrir un espace de réflexion spirituelle, mais pour autant, la démarche spirituelle n'est pas nécessairement liée à la religion et elle peut exister en dehors de la religion. C'est ça la différence que moi je fais entre la religion et la spiritualité. En entreprise, moi je pense que au final la question fondamentale de la spiritualité, c'est vraiment la question du sens et de la place de l'homme. En ça, elle a vraiment sa place partout, évidemment. Et cette question ou ces questions, elles se posent partout et évidemment dans le monde de l'entreprise. Et je pense que à un moment où on se pose de plus en plus la question justement de l'impact de l'homme sur le monde et notamment sur le plan écologique ou sociétal, eh ben l'entreprise en fait ne peut pas s'abstraire de cette question-là, ne serait-ce que parce que les personnes qui la composent se posent ces questions-là et que l'entreprise se doit d'accompagner ce questionnement et d'aider et répondre.
Leslie Prieur, vous êtes vous-même manager. Qu'est-ce qu'un management spirituel selon vous ?
Aujourd'hui, développer son intelligence spirituelle, ça veut dire en tant que manager dans l'entreprise, ça veut dire accompagner et les individus et l'entreprise dans ces questionnements de sens et de place. Donc, du lien de soi à soi, du lien de soi à l'autre et du lien de soi à la nature ou à Dieu ou à la source ou à l'énergie, on l'appelle comme on veut, mais on se rapporte à l'univers en fait qui nous dépasse. Et donc, ça veut dire en tant que manager, pour moi, avoir déjà cheminer individuellement sur ces questions et puis laisser de la place à ces questionnements qui sont parfois ceux d'une équipe entière, parfois ceux d'un projet, parfois des moments de vie chez certains. Et donc, c'est déjà autoriser, accueillir ça. Et puis, souvent, poser la question du sens ou de l'intention, je dirais. Se dire, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on cherche à faire vraiment ? Au bout du bout, c'est quoi le but ? Je trouve que ça passe beaucoup par poser la question pourquoi, au service de quoi, dans quelle intention. Le financier est un moyen pour faire tourner sa maison, pour faire tourner un projet. Enfin, tout le monde est soumis à la contrainte financière. Donc, je pense qu'il ne faut pas les opposer. En revanche, c'est un moyen. Donc, c'est toujours au service d'une mission. Et toutes les entreprises ont une mission. Hein. Elles ont plus ou moins de sens pour la société, plus ou moins de sens pour les collaborateurs. Et je pense qu'il faut sans cesse réinterroger justement la mission de nos entreprises, ce qu'elles cherchent à apporter à la société, comment elles le font. Donc oui, l'entreprise ne peut pas durablement être uniquement un projet financier. Ça marche pas et je pense que ça va marcher de moins en moins.
On peut se demander concrètement comment se manifeste la spiritualité au travail. Tristan Lecomte, ex-fondateur de Alter Echo, offrait par exemple à ses salariés 10 minutes de silence chaque matin. Avez-vous, de votre côté, des pratiques que vous avez instaurées au sein de votre entreprise ?
Alors oui, si on part du principe que la démarche spirituelle, c'est quelque chose de très intime, je pense qu'il faut être vigilant à ne rien imposer, à plutôt inviter et proposer. Et la démarche spirituelle, pour moi, doit vraiment partir de l'intérieur. Et donc, l'idée, c'est plutôt de semer des graines qui fait que ça peut venir s'exprimer. Dans les pratiques assez concrètes que je trouve intéressantes à explorer, ça part beaucoup de l'émotion. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Les pratiques autour de la gestion des émotions, souvent, l'émotion, elle touche le rapport à soi et on ne se connaît pas toujours très bien. Et c'est une bonne façon, justement, d'entrer vers cette intimité ou cette intériorité. Donc, l'émotion, par exemple, en entreprise, elle n'est pas toujours... et même pas souvent accompagnée, reconnue, discutée. Et pourtant, elle a quand même souvent un lien avec cet élan vital qu'on a. Donc moi, je trouve que toutes les pratiques autour de la gestion des émotions, ça commence par ne pas les mettre sous le tapis. Ça veut dire accepter d'en discuter individuellement ou collectivement. Ça, c'est parfois confrontant. Donc en tant que manager, apprendre à gérer ses propres émotions, mais apprendre à accueillir les émotions des autres, à les discuter, à explorer aussi ce qui se passe dans le corps. Moi, je trouve que c'est intéressant d'inviter à certains moments mes équipes ou en entretien individuel quand on est face à une difficulté, inviter à comprendre ce qui se passe dans le corps, donc revenir aux sensations, aller au bout de la compréhension de cette émotion, qu'est-ce qu'elle vient dire là, qu'est-ce qu'elle apporte, et puis suivre potentiellement toute la démarche de la communication non violente. Donc s'il y a une émotion, c'est qu'il y a un besoin, quel est le besoin ? Et dérouler, est-ce qu'on a des demandes? Moi, je trouve que tout ce qui se travaille autour de l'intelligence émotionnelle, en individuel ou en collectif, c'est une bonne porte d'entrée pour dérouler jusqu'à la question du sens et de la spiritualité, parce qu'on en a tous des émotions, et puis souvent, elles sont quand même mises de côté dans le monde de l'entreprise, on se dit qu'elles n'ont pas leur place. Je trouve que justement, les réinviter, leur donner une place importante, une place en tout cas, et surtout, accompagner tout le processus de la nommer, de la comprendre, de voir ce qu'elle a à dire. Ça fait grandir la confiance dans les équipes. Ça nous ramène à quelque chose d'autre que le mental. Et donc, je trouve que c'est vraiment une très bonne porte d'entrée qui, sans afficher en 4x3 le mot spiritualité, permet justement d'y accéder petit par petit, parce que quand on va au bout d'une colère ou au bout d'une tristesse, très souvent, on touche à notre propre mission, à notre intention quand on est là et qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on cherche à faire au bout du bout. Et puis, à titre individuel, une autre pratique, moi, je trouve que la respiration, c'est une pratique du quotidien pour être connecté à sa spiritualité. Je pratique beaucoup le yoga. En yoga, on dit que quand on inspire, c'est le prana, l'énergie vitale qui entre en nous. Et respirer en conscience, en investissant tout l'ensemble de son corps, ça nous donne une autre qualité de présence à soi, aux autres, à ce qui est en train de se passer. On peut le faire n'importe où, n'importe quand, en réunion, debout, assis. Et ça, pour moi, c'est une bonne pratique hyper facile à implémenter dans nos vies et qui change vraiment qui me change vraiment mon rapport au monde. Respirer en conscience, voilà, ça c'est une première possibilité de se mettre en pratique sur la spiritualité au travail.
L'inflation de l'ego et ses avatars que sont la cupidité, l'avidité, le cynisme représentent l'un des grands maux de notre époque et de notre management en entreprise. Mettre à distance l'ego et le mental, qu'avons-nous tant à y gagner en tant que manager d'équipe ?
L'ego, je pense que c'est le challenge de l'humanité. Je ne crois pas que ce soit pire aujourd'hui qu'avant, mais en tout cas, on a tous à y travailler, c'est certain. Moi, j'ai arrêté d'être en guerre avec le mental. Je trouve qu'il y a une sorte d'injonction aujourd'hui, notamment quand on travaille sur... quand on chemine sur le spirituel, de se dire « ah bah le mental », etc. Moi, c'est pas ça qui m'a aidée. Le mental, je trouve qu'il sert à beaucoup de choses, il fait son travail. Le problème, c'est quand il sort de son rôle et qui dirige nos vies. Donc, avoir un rapport plus apaisé au mental en se disant que produire des pensées, produire du raisonnement, ça nous aide à fonctionner pour plein de choses. Pour autant, ça ne doit pas être lui qui dirige la vie. Et ça, je trouve que c'est déjà une première étape pour le mettre à distance, c'est-à-dire reconnaître son utilité, mais se dire que ce n'est pas pour autant lui qui gouverne. Et idem avec l'ego. Ce qu'il y a à y gagner, En tout cas, moi, je sais que quand j'arrive à remettre à sa place mon mental, dans ces moments-là, je sais que l'autre et moi, au bout du bout, c'est la même chose. Donc, je me sens infiniment plus reliée aux autres parce que je peux expérimenter une sorte d'union et je dépasse une croyance de séparation de individuellement, tous dans une petite enveloppe corporelle qui fait qu'on est tous bien séparés les uns des autres. Quand on laisse l'ego et le mental bien à leur place, je trouve qu'on accède à une autre qualité de relation aux autres qui fait qu'on se sent beaucoup plus unis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et en dépassant cette croyance de séparation, au final, il y a quelque chose qui se déploie, pour moi, une connexion d'amour profond, et qui fait que, à titre personnel, moi, je ressens beaucoup plus d'énergie et une plus grande capacité d'acceptation. Avec cette acceptation, il y a du coup la possibilité de faire face beaucoup plus rapidement à ce qui se présente à nous et donc d'être moins dans la négociation avec le réel parce que voilà, c'est ça qui se présente, j'accepte et je travaille avec ce qui est présent. Ça, je trouve que c'est très précieux quand on met le mental et l'ego à sa place et que je n'ai pas besoin d'avoir raison ou que je n'ai pas de peur liée à ma place dans l'équipe. Au final, je laisse beaucoup plus de place aux autres. Et ça me permet, moi je trouve, d'aller plus vite pour prendre certaines décisions que je dois être amenée à prendre ou dans ma gestion du stress parce que le sujet, c'est pas tant moi dans l'histoire, quoi. Quand le mental ou l'ego sont à leur place, au final, les choses se font beaucoup plus naturellement parce qu'il n'y a pas l'ego qui vient se ramener avec ses peurs, son besoin d'exister, etc. Moi, je trouve qu'il y a une fluidité pour accompagner ce qui se présente pour accompagner les équipes, pour prendre les décisions. Alors évidemment, ce serait formidable si j'y arrivais tout le temps, mais j'y arrive pas du tout le temps, parce que c'est ce rapport au mental et à l'ego, je pense que c'est le travail d'une vie entière. Mais en tout cas, quand je touche ces états-là, d'avoir ce sentiment de fluidité parce que mon ego et mon mental sont à leur place et que donc je laisse de la place à autre chose et que tout se fait de manière beaucoup plus fluide, ça suffit à me motiver pour continuer à travailler le sujet. Je pense que c'est les deux principaux bénéfices. Parce que l'amour, je trouve que c'est quand même, quand on est amené à manager des équipes et qu'on est aussi amené à recevoir beaucoup de difficultés ou de tensions, parce que voilà, la vie en société fait qu'il y a des frottements. Je trouve que pouvoir se réfugier dans cette notion d'amour. Moi, je sais que aimer mes équipes, c'est quelque chose qui m'aide à me lever le matin. Je le fais pour eux, quoi.
Donc, remettre son ego à sa juste place, c'est se libérer des attributs du chef et du leader indispensable. Comment alors bâtir une confiance d'un autre ordre? En osant parfois montrer sa vulnérabilité, selon vous?
Oui, alors, je trouve que dès qu'on entre sur le chemin de... J'ai pas envie d'être ce chef sachant... qui décide tout, bon, il y en a de moins en moins quand même de nos jours, mais il y a encore du boulot, c'est sûr. Assez vite, je trouve qu'il existe beaucoup d'outils qui permettent ça. Toutes les méthodes d'intelligence collective, notamment la facilitation, sont très efficaces pour introduire un autre mode de fonctionnement en entreprise où la parole de chacun a de la valeur. Ça, je trouve que ça fonctionne bien. Il faut aussi avoir conscience que la façon d'organiser la prise de décision différemment, c'est possible seulement à partir du moment où le manager bosse sur lui-même, bosse sur son ego, bosse sur sa volonté de lâcher prise et de comment lâcher prise. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vouloir lâcher et puis d'au final pas lâcher. Je pense que c'est encore pire qu'un manager qui lâche pas. Il y a le manager qui croit lâcher et qui lâche pas. Donc, des méthodes pour trouver d'autres manières de fonctionner, il y en a de plus en plus. Tout ce qui a été écrit sur les modes de fonctionnement des entreprises libérées, la sociocratie, l'holacratie, etc. Donc, des systèmes ou des outils pour nous aider à fonctionner quand on décide de lâcher les attributs du chef, comme vous dites, il y en a beaucoup. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai travail associé, qui est le travail qu'on fait sur soi-même pour être en capacité de lâcher vraiment. Ça, je pense que c'est une première chose. Il y a le sujet de la vulnérabilité, la question que vous aviez posée également sur la vulnérabilité. Moi, je pense que oser sa vulnérabilité, c'est nourrissant pour l'équipe parce que ça autorise beaucoup de choses et ça désacralise le rôle du manager. C'est ça fonctionne. En revanche, je crois que, et c'est pas facile tous les jours, mais je crois que le sujet, c'est surtout d'être à l'écoute de ce dont le collectif a besoin en tant que manager. Et parfois, le collectif, il a surtout pas besoin qu'on vienne rajouter notre vulnérabilité. Quand l'entreprise traverse, ou l'équipe, hein, une phase de doute, une phase de questionnement, y a des moments où moi, j'aimerais bien partager ma vulnérabilité à ce moment-là, mais je crois que pour le coup, en tant que manager, à ce moment-là, si on sent qu'il y a déjà beaucoup de doutes ou de flou, partager sa vulnérabilité, ça va pas aider le collectif.
Vous avez insisté sur cette notion d'amour. Est-ce que travailler avec la tête et le cœur, c'est possible aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas renoncer à la dimension existentielle qu'apporte le travail? C'est envisageable?
Est-ce que c'est envisageable? Oui, je pense que c'est plus qu'envisageable. C'est une force. Justement, dans la manière dont vous le dites, c'est pas le cœur à la place de la tête, c'est la tête et le cœur, les deux ensemble. Et ça, je pense qu'au final, c'est rajouter des cordes à son arc. Le besoin d'accomplissement par le travail, moi, je pense que c'est ce besoin-là qu'on est nombreux à porter qui va garantir ou qui va permettre les mutations des entreprises. Surtout, je pense qu'en effet, il ne faut pas renoncer parce que les entreprises sont faites des gens qui la composent. Et je crois que cet impératif de sens dans le travail qu'on porte individuellement, il faut continuer à le porter au sein de l'entreprise pour pousser l'entreprise à changer. Ça, en effet, ça me semble impératif. Et votre podcast vise à montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à ce chemin et puis qui s'y emploient. En revanche, il faut reconnaître que voilà, c'est un chemin avec des hauts et des bas. Enfin, il y a plein de moments où j'ai pas la réponse, il y a plein de moments où j'y arrive pas. Mais en tout cas, j'ai l'intention de continuer à me questionner et à douter, à chercher des façons d'avancer. Et du coup, ce qui me semble important sur ce chemin ou sur ce questionnement, c'est d'avoir les bons endroits pour se ressourcer, se nourrir. Donc ça peut être une pratique. Moi, je sais que je pratique beaucoup le yoga qui m'aide à avancer sur mon chemin spirituel et après, du coup, à avoir peut-être un peu plus d'énergie ou de résilience dans le monde de l'entreprise quand ça se passe pas exactement comme j'aurais voulu. Mais il y a aussi l'importance des groupes de pairs vers qui on peut se tourner quand on a besoin de partager ces sujets-là.
Quel conseil, enfin, donneriez-vous, Leslie Prieur, pour les leaders et les managers qui nous écoutent?
Ce que je peux peut-être dire à ceux qui ont envie de commencer, parce que j'ai eu le sentiment de longtemps tourner autour du pot sur comment je m'aligne un peu plus entre ce que j'aurais envie d'être en entreprise et ce que je fais tous les jours. Donc j'aurais plutôt un encouragement sur le fait d'avancer les premiers petits pas. Ça se joue parfois à pas grand-chose. Et donc c'est plutôt une question de par quoi je commence, par quel petit premier pas je commence. Et dans les premiers petits pas, moi, qui m'ont beaucoup aidée, y a le fait de lire, par exemple, le bouquin de Fred Laloux qui s'appelle « Reinventing Organizations » et qui donne plein de petits tips comment introduire de nouvelles pratiques en entreprise. Moi, il y a une pratique toute bête que je trouve très puissante, c'est commencer les réunions d'équipe par une question d'inclusion. Donc, c'est une question qu'on pose à l'ensemble du groupe. Ça peut être tout type de questions, mais ça vise à introduire le moment en faisant une place à chacun. En général, on apprend au fur et à mesure de ces questions d'inclusion, on va très bien se connaître les uns les autres. Et puis, ça donne à chacun sa place et l'importance de chacun dans le groupe. Voilà, une question d'inclusion comme quel est votre meilleur moment de la journée. C'est la plus basique et la première que j'ai employée, je pense. Dans les autres encouragements qui me viennent, c'est que avancer sur ce chemin-là, je trouve que c'est une sortie de zone de confort. On ne sait pas comment ça va être accueilli, on ne sait pas si ça va marcher ou pas marcher. Et il faut admettre que c'est pas toujours confortable parce qu'on a l'impression de faire parfois quelque chose un peu différent. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Admettre que c'est pas confortable mais qu'on a envie de le faire et puis voir ce que ça donne. Moi, je trouve qu'il y a de très belles choses qu'on peut faire assez facilement. Parfois, c'est plus facile de commencer en entretien individuel, c'est-à-dire en one-to-one plutôt qu'en collectif, ça, avec quelqu'un avec qui on est peut-être plus en confiance dans son équipe. Et par exemple, moi j'ai de beaux souvenirs aussi sur de beaux entretiens annuels sur lesquels je me suis permise de poser des questions un petit peu plus spirituelles, on pourrait dire, en tout cas qui invitent l'autre à se poser peut-être un peu plus loin la question de sa place dans l'entreprise en disant ben voilà, quels sont les les forces que tu as envie de mettre au service du collectif, qu'est-ce que tu aurais envie d'apporter au monde, et si tout était possible, voilà, qu'est-ce que tu aimerais apporter au collectif. Toutes ces questions qui renvoient l'autre à son intériorité et qui donnent à l'âme toute sa place au final dans le monde du travail. Et puis après, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, des choses s'additionnant entre elles, par petites touches, je trouve que ça peut donner de jolies choses au niveau collectif.
Merci Leslie Prieur pour ce témoignage. C'est la fin de notre première saison. On se donne rendez-vous à la rentrée. Et d'ici là, restez zen.